Bonjour à toutes et à tous. Que la grâce et la paix de Jésus soient sur nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est seul aujourd'hui? Pourquoi? On vient de le chanter, n'est-ce pas? Hein? C'est ça que les... Non, jamais tout seul. Hein? Dans le petit... comment on appelle ça en France? Un petit quiz que les frères nous ont mené... il y a 15 jours, je crois, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que Jésus il a obligé les disciples? Hein, pendant qu'il les a renvoyés, lui, il a été prié. Alors, il y a eu cette tempête. Mais il y a une chose que, si vous allez lire le Marc 6, hein, pendant qu'ils étaient dans la tempête, hein, Jésus, il les a vus. Il les a vus, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été vers eux en marchant. Pourquoi il les a obligés pour leur montrer qu'il est Dieu, qu'il est toujours là. Il ne nous laisse jamais. Hein, il les a obligés. Il savait qu'il y avait une tempête, mais il a vu qu'il n'arrivait pas, alors il a été vers eux, il a marché. Il a dit Jean depuis deux fois. Non, jamais tout seul. Voilà. C'est ça Jésus, hein. C'est ça notre grand Dieu. Comme il a dit les frères, vous savez, aujourd'hui, il y a deux grands événements. Hein? Grands, entre guillemets. Hein? Hein? C'est la fête des pères. C'est la fête des pères. Je ne vais pas vous prêcher sur la fête des pères. Mais juste vous dire que avoir un père, c'est quelque chose de très important pour les enfants. Hein? Il y a des familles dans lesquelles le père n'est pas comporté comme il faut, hein? Mais nous sommes chrétiens et le Seigneur il nous dit bénissez au lieu de maudire. Hein? Voilà, nous devons faire toutes ces choses-là et n'oublions pas que le Père, c'est Dieu qui a institué ces choses-là et c'est lui qui lui a donné l'autorité dans la famille pour que les choses puissent avancer. Comme j'ai dit, dans des familles, il y a eu des pères qui ont renoncé à cela, mais heureusement qu'il y a eu des femmes, avec la grâce de Dieu, ils ont continué et ils sont arrivés à mener la famille comme il faut, n'est-ce pas? Et voilà, donc, je vais vous parler pas de la fête des pères, mais je vais vous parler d'un homme quand même, hein, que je sais pas s'il était marié ou pas. Hein, mais c'est un homme. Et ce que je veux dire à propos de cet homme, il est valable pour tous les pères. Car si on s'est conduit comme ça, c'est que la famille et la nation ou l'organisation, il marchera bien. Alors, le deuxième sujet, c'est quoi? Ben, c'est justement ça. C'est qu'il y a les élections. Vous le savez. Et en tant que chrétien, nous devons voter. Hein. Moi, je ne vote pas, je suis italien. Mais c'est un droit, n'est-ce pas? Et vous savez bien que pendant ces élections, c'est dimanche prochain, il va y avoir des gens qui se sont présentés pour qu'ils puissent être élus et qu'ils puissent gouverner, hein? Le pays ou la région ou la Provence, hein, voilà. Et ces gens-là, ils seront élus si ils sont votés, n'est-ce pas? Hein? Mais ils feront juste un mandat, deux mandats, pas plus. Hein? Question de 10 ans, 12 ans. Mais je vais poser une question. Connaissez-vous quelqu'un qui est resté beaucoup plus que ça? Je vous donne un petit indice, il est resté 70 ans. Daniel. Daniel a gouverné 70 ans. C'est-à-dire qu'il a fait, il a gouverné à la place du roi. Hein. Et alors, on se demande, mais pourquoi? Parce que pour gouverner, pour arriver au succès, il faut des clés. Il faut des clés. Et si on n'a pas, si on ne possède pas ces clés, on n'arrivera pas. Donc voilà pourquoi je vous ai dit, on va un peu regarder dans le livre de Daniel. Cet homme, Daniel, comme je vous ai dit, on ne sait pas s'il était marié. mais il possédait toutes les caractéristiques pour qu'il puisse diriger un pays. Hein? Donc, pour diriger un pays, pour diriger une église, une assemblée, il faut des clés. Il faut des clés. Et nous allons voir ces clés-là. Vous savez, Daniel qui était, hein, c'était un juif hein, qui a été déporté à Babylonie. Hein, et c'est là qu'il a passé toute sa vie, parce qu'il a été amené tout jeune. Hein, tout jeune. Alors, regardons un peu les clés qui sont indispensables hein, pour avoir... pour être un bon gérant, un bon gouverneur, un bon chef, mais surtout pour être aussi un exemple. La première clé qu'il faut, c'est le nom déjà de Daniel, il le dit. Le mot Daniel, ça signifie Dieu juge. Dieu juge. Et déjà, quelqu'un qui porte ce nom-là et il se présente pour diriger, tout de suite, il doit se dire qu'il doit agir comme il faut. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a les jugements des dieux. Il faut qu'il ait constamment le Seigneur devant ses yeux. Et il y a un exemple qu'on va voir dans Daniel. Hein. Daniel, c'est une histoire que vous connaissez, bien sûr, hein, si vous avez lu la Bible ou si vous êtes un amateur de ces choses-là, parce qu'il est rempli d'enseignements. Daniel, ça signifie « Dieu juge ». N'oublions jamais ça, que c'est Dieu qui juge. Et il y a quelqu'un qui l'a oublié. Voilà, et il se trouve dans Daniel chapitre 5, et il y a cet homme, je vais faire un compte rendu, hein, jusqu'à où je vais arriver pour vous montrer que Dieu, il est là pour juger. Il n'y a rien qui passe sans que Dieu, il intervienne pour régler la chose. Il y avait le roi Belshazzar. Je crois que c'était neveu du grand roi Nebuchadnezzar. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce roi? Et il nous a dit qu'il a donné une fête. Et alors, vous savez bien ce qu'on fait dans les fêtes. Hein? Ça descend, ça boit, et on s'amuse. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce roi? Il s'est rappelé que je crois que c'est son grand-père, Nabucodonosor. Il s'est rappelé qu'il avait ramené de Jérusalem tous les ustensiles du temple. Les tasses, les coupes, les vases. Alors, il a fait ramener toutes ces choses-là et ils ont festoyé avec toutes ces choses-là. Et pendant qu'ils étaient dans l'ébriété comme ça, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'à un certain moment, ils ont vu dans la paroi de la place, de la chambre où ils étaient, dans la grande salle, une main. Et cette main, il a écrit, voilà, et ça, il nous est marqué dans verset 25, « Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez. » Peser et diviser. Il a vu ça. Lorsqu'il a vu ça, cette main étrange, il a commencé à trembler. Déjà, il était, comme on dit, hein, ivre. Mais il a commencé à trembler parce qu'il a eu peur. Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Alors, sa femme, il lui a dit, écoutez, dans le royaume, il y a quelqu'un qui sait interpréter ces choses-là. Et cet homme-là, c'est Daniel. Alors, il a dit, appelle-le tout de suite. Daniel arrive et lui dit, c'est vrai que tu peux interpréter. Il a dit, oui. Il a dit, si tu arrives à interpréter cela, je vais te donner des grandes richesses. Et la réponse de Daniel, verset 17. Daniel répondit, garde tes dons et accorde un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. » Et il continue, « Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'Empire. » Je saute un peu pour ne pas tout lire, sinon on ne s'en sort pas. « Le roi, il avait donné à ton grand-père. » Voilà, tous les empires. Mais au verset 20, « Mais lorsque son cœur s'est élevé de Nebuchadnezzar, parce qu'il était roi des nations, son cœur il s'est élevé et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité. » Jugement de Dieu. Dieu a jugé. Et il continue au verset 21, tout à la fin, et il dit, le Dieu suprême, non, il a été précipité jusque à la fin du verset 21, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il les donne à qui lui plaît. Mais il est là pour juger. Et il continue, verset 22, « Et toi, il lui dit Daniel, le roi, et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. » Tu n'as pas humilié ton cœur. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé les ustensiles du temple qui étaient dédiés à Dieu, à l'Éternel. Et c'est là qu'il intervient, le Seigneur. Car Dieu, il juge. Dieu, il juge. Ayons toujours à notre esprit que Dieu, il va nous juger. Soit ici-bas sur cette terre, ou soit là-haut lorsque nous allons nous présenter dans le tribunal de Christ. Et voilà pourquoi il lui dit, voilà pourquoi cette main, il est apparu, parce que c'est le jugement de Dieu. Et cette main, il disait, on revient au verset 26, voici l'explication de ce mot. Comptez, Dieu a compté ton règne. Et il y a mis fin. Il régnait pourtant, mais il dit, et il y a mis fin. Jugement de Dieu. Tu as été pesé. Pesé. Parce qu'à cette époque, les gens, ils croyaient que Dieu, il mettait les gens sur une balance, il mettait sur une balance les bonnes ou les mauvaises œuvres. Par rapport à les bonnes œuvres, il était sauvé ou sinon. Et il lui dit, tu as été pesé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Tu as été pesé dans la balance. Et tu as été trouvé trop léger. C'est-à-dire que ces mauvaises œuvres, ils étaient en haut et pas. C'était trop léger. Et il lui a dit, résultat, jugement, tu es divisé. C'est-à-dire que ton royaume, c'est fini. Les jugements de Dieu. La première caractéristique de quelqu'un, même d'un père, mais de quelqu'un qui veut se mettre à la distance de Dieu, c'est de savoir que Dieu, il va intervenir, que Dieu, il va juger. Et c'est cela, et c'est dans ces choses-là que nous devons faire très attention. Des fois, on commet des péchés et on se dit, oh, c'est pas grave. Non, Dieu, il va nous juger pour cela. Voilà pourquoi, lui, il s'appelait Daniel, mais il savait la signification de son nom. Aujourd'hui, on donne des noms n'importe comment, qu'on ne comprend même pas. Mais à cette époque-là, on appelait les gens par rapport à ce qu'ils croyaient, les gens. Si vous avez remarqué, au jour d'aujourd'hui, vous avez déjà vu quelqu'un qui l'a appelé Judas? Il y en a, mais c'est très peu, très peu. Ils n'y croivent pas, mais ils savent ce qu'il a fait Judas. Donc voilà, d'ailleurs, dans les portes, n'est-ce pas, il y a les petits Judas, n'est-ce pas? Quand quelqu'un y frappe, on regarde. Voilà, première clé, c'est Dieu, il juge. N'oublions jamais cela. Deuxième clé, il se trouve dans Daniel chapitre 1. Chapitre 1, le verset 8. Ils sont amenés en captivité avec d'autres jeunes. Voilà ce qu'il dit. Daniel, résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par les vins dont les rois buvaient. et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Deuxième clé, Daniel, c'était un homme saint. À ce moment-là, ce n'était pas un homme, mais c'était un adolescent, car il venait d'arriver à Babylone et le roi, il avait pris tous les jeunes des nobles familles pour les instruire dans la religion chaldéenne et pour qu'ils puissent être des hommes sages. Donc Daniel, il était jeune. Mais ici, deuxième clé, c'est il était saint. Lui-même, il a résolu. La résolution, être un homme saint, c'est ça. Être résolu à accomplir ce que Dieu il nous dit, ce que nous croyons, comme les frères nous enseignent le matin, les dimanches matin, ce que je crois, ce que Dieu me dit, il faut être résolu à le faire, l'observer et le mettre en pratique. Et c'est Daniel, hein, il était exilé, mais même s'il était exilé, c'est-à-dire prisonnier, il n'a pas voulu s'adapter à ce que les gens de ce pays, ils faisaient. Il a dit, si vous lisez un peu le chapitre, il a dit à cet eunuque, il lui a dit, écoute, moi, j'ai résolu de ne pas manger, de ne pas boire ce que vous me donnez, parce que ce n'est pas selon la loi de l'Éternel. Il a dit, mais mets-moi l'épreuve, donne-moi des légumes, je sais pas, et tu verras, hein, si je suis en forme ou pas. Et en ayant cette résolution et en mangeant ce que il était permis par l'Éternel, il était plus en meilleure santé que les autres qui mangeaient et qui buvaient. Pourquoi? Parce que il faut qu'il soit résolu. Ça, c'est la deuxième clé. Il faut qu'on soit résolu à accomplir ce que Dieu il nous demande de faire. À ne pas se conformer à ce siècle, comme Paul il nous le dit dans Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés, pas par nous-mêmes, parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire, mais par l'Esprit. Et si nous avons été transformés par l'Esprit, alors nous pouvons vivre selon, à la manière de Dieu. Hein? Et pas beaucoup de gens, ils se plaisent dans le monde, dans ce monde. Est-ce que vous vous plaisez dans ce monde? On y est, vous me direz, il faut vivre, hein? Mais je parle de se plaire, c'est-à-dire de suivre ce que le monde y fait, de suivre ce que le monde dit, même en étant chrétien. C'est ça la résolution qu'il a prise, Daniel. Il a résolu, il peut m'arriver n'importe quoi, mais moi, je décidais et je vais marcher avec le Seigneur. Ça, c'est ce qu'on appelle la sainteté. C'est quoi la sainteté? La sainteté, c'est refléter l'image de Jésus-Christ, montrer tout autour de nous qui nous sommes, dire à ceux qui sont autour de nous qui accomplit cette œuvre. Parce qu'encore une fois, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de vous, mais il y a cet esprit que le Seigneur il a mis à l'intérieur de chacun de nous. Vous savez, un homme saint, il n'accepte pas l'idolâtrie. Vous me direz, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'idole. Mais vous savez, un idole, c'est tout ce qui est à la place de Dieu. Et un idole, ça peut être nous-mêmes. Ça peut être nous-mêmes. Ça peut être notre famille. Ça peut être notre famille. L'argent, le sport, le sexe, le travail et d'autres divinités. Mais l'homme saint, il cherche surtout et il a résolu dans sa vie de plaire à Dieu. Deuxième clé, c'est être saint. Troisième clé, à travers Daniel, chapitre 2, le verset, à partir du verset 17. Voilà ce qu'il dit. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire, Anania, Michaël et Azaria, c'était les trois amis de Daniel, hein, parce que Vous savez, je vous dis un peu l'histoire. Nabuchodonosor, il avait fait un rêve. Hein? Il avait rêvé d'une statue. Il avait eu peur, là aussi. Hein? Et alors, il a dit, il a appelé les sages, il leur a dit, il faut me dire qu'est-ce que je rêvais, et c'est, qu'est-ce que c'est que je, ça signifie. Et les sages, ils ont dit, mais au roi, dis-nous ce que tu as rêvé. Et ensuite, et le roi a dit, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous êtes des sages, vous allez me dire le rêve et la signification. Et personne, il a su le faire. Alors c'est là qu'il a dit, bon, si vous ne savez pas, je vais faire tuer tous les sages. Et Daniel et les trois amis, ils étaient parmi ces sages. Voilà pourquoi, verset 17. Lorsque Daniel, il a su ça, Daniel alla dans sa maison. Il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel, dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. » À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui, Dieu de mes pères. Je te glorifie, je t'élue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force. Il reconnaît, c'est toi qui m'as donné tout ça. Et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, parce qu'il les avait réunis pour prier. Il a été voir ses amis, venez, mettons-nous ensemble et prions le Seigneur pour qu'il nous révèle ces choses-là. Hein? Et il se retira dans sa maison où les fenêtres, ça c'est Daniel 6, hein, verset 10. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem, et trois fois par jour il se mettait à genoux et il priait et louait son Dieu. Donc il a réuni ses amis pour prier, pour que le Seigneur puisse lui révéler. Et chapitre 6, c'est un autre événement, hein, c'est-à-dire qu'il avait construit une statue, et il a dit, tous ceux qui n'adorent pas la statue, c'est ça. Et alors il a dit, voilà, mais Daniel, hein, ceux qui prient d'autres dieux, quoi, hein, mais Daniel, il a fait comme il faisait auparavant. Et alors, cette troisième clé, c'est quoi? C'est que Daniel, il était un homme de foi et un homme de prière. Un homme de foi qu'il croyait en Dieu. D'ailleurs, il s'est tourné vers lui parce qu'il savait que Dieu, il révèle les choses. Il savait que Dieu, il a tout pouvoir. Voilà pourquoi il s'est tourné vers lui par la foi et ensuite par la prière. Vous savez, comme on dit toujours dans nos réunions de prière, il y a une chose qui fait bouger la main de Dieu, c'est la prière. Vous priez, et Seigneur, il nous l'a dit, demandez et vous recevrez. Si on ne demande pas, il ne donne pas. Et pourtant, il nous a dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Mais Daniel, il savait ces choses-là. Et alors, dans sa foi, il a prié le Seigneur. Et en plus, comme il a dit ici, il s'est joint à ses frères et sœurs pour manifester cette foi et cette prière. Vous savez, ici, il nous a dit que Daniel, il priait trois fois par jour. Et lorsqu'il priait, il se baissait en direction de la Mecque. J'ai vu sur Facebook, c'est un truc des juifs, des musulmans, comment il s'appelle, je ne m'en souviens plus, Mufti ou je ne sais pas quoi. Et il a dit, Jésus était musulman. Pourquoi? Parce qu'il priait plusieurs fois et il priait en se tournant vers Jérusalem. Vraiment, hein, comme les gens, comme les frères nous enseignaient ce matin. Hein. Là, il enseignait une mauvaise doctrine. Jésus, il priait vers Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'était là que Dieu avait établi la chose. Et il priait 3 fois par jour. Mais le Seigneur Jésus, il était constamment en prière avec le Seigneur. Voilà pourquoi c'est très important, avec cette 3e clé, d'être des hommes des fois et des hommes des prières. Car la prière, il fait bouger la main de Dieu. Et si un homme qui désire diriger, qui désire gouverner, et s'il possède déjà ces 3 clés, les autres aussi sont indispensables, mais s'il commence déjà à posséder ces 3 clés, sa direction est réglée. Pourquoi? Parce que le Seigneur est là. Daniel, il n'était pas seulement un homme de foi, un homme de prière, mais c'était quelqu'un qui s'est confié dans le Seigneur. En tout, depuis les jours qu'il est venu, on l'a vu, il a résolu. C'est ça la résolution que nous devons prendre. Nous laisser diriger par le Seigneur et accomplir ce que le Seigneur il nous dit dans sa parole. Il y a l'autre clé, il se trouve dans Daniel 1, le verset 1 et 2. Voilà, il raconte de comment le peuple Nabuchodonosor, il est venu, hein. Et il dit, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Ici, il nous montre ce verset que Joachim, le roi de Juda, hein, il avait été fait prisonnier par Nebuchadnezzar. Hein. Si on s'arrête là, on peut dire, oui, Nebuchadnezzar, il était vraiment quelqu'un de très puissant, quelqu'un qui faisait ce qu'il voulait. Mais si on continue à lire le verset, il dit, le Seigneur livra entre ses mains. Car, encore une fois, il n'y a rien qui peut nous arriver si le Seigneur ne le décide. On a vu tout à l'heure, non, jamais tout seul. Parce que le Seigneur, il voit, il sait. Vous en souvenez, Job. Et le Seigneur, il lui a dit, t'as vu Job, comme il est intègre et juste. Oh, il est intègre parce que... Mais si tu le lâches un peu, il a dit, vas-y, mais tu ne touches pas sa vie. Voilà ici, il nous montre 4e clé. Hein? C'est un homme qui sait que Dieu règne. Chapitre 2, verset 20, ce qu'il fait Daniel, 2, 20. Il dit, Daniel prit la parole, il dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science. » C'est-à-dire que 4e clé, c'est un homme qui sait que Dieu règne. Il sait que Dieu règne. Et Daniel, il a appris très tôt à savoir, à prendre conscience que Dieu règne. Car lorsqu'il a été amené en captivité, il savait déjà que le Seigneur, il était avec lui. Voilà pourquoi, à un certain moment, la 2e clé, il nous a dit, il a résolu en son cœur. Parce que déjà, le Seigneur, il était là. Non, les rois de Babylone, ils n'avaient aucun pouvoir sur le roi Joachim ou sur le royaume de Juda si Dieu ne lui a pas donné la permission. Pourquoi est-ce que Dieu lui a permis cela? Parce qu'ils étaient dans le péché. Et lorsqu'on est dans le péché, Dieu, il n'est pas en communion avec nous. Soyons conscients de cela. Si on a les péchés dans notre cœur, Dieu n'est pas en communion. C'est-à-dire que nous pouvons prier, hein, mais comme dit Roland, les prières ne passent pas. Pourquoi? Parce qu'il faut être en communion. C'est ça que nous devons ressentir le plus. Mais des fois, nous oublions cela. Quelqu'un qui ressentait la communion avec l'Éternel, avec Dieu. Mais c'est Jésus. Sur la croix, il a dit, mais... Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jamais il a été coupé de cette communion avec Dieu le Père. Jamais. Et alors il a dit, en tant qu'homme, il a dit, bien sûr, hein. Et il a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu ne pouvait pas faire autrement. Parce que sur Jésus, il y avait les péchés du monde entier. Mais quatrième clé, c'est cet homme, il savait que Dieu règne. C'est lui qui tient tout en main. C'est lui qui interprète les temps, qui change les saisons. Tout est dans la main de Dieu. Il connaissait ces choses-là. Il savait qu'il était en captivité, mais il savait que Dieu règne. Dieu règne. On voit ce monde, on se dit, mais Dieu ne règne pas. Regardez les psaumes 2. Vous connaissez ces psaumes, hein? Psaume 2, regardez ce qu'il dit. Psaume 3, psaume 2, si je l'ai dit, voilà. Pourquoi ces tumultes parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Ils disent, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. C'est lui qui siège dans les cieux, il rit. Le Seigneur, il se moque d'eux. Pourquoi? Parce qu'il règne. Les choses, il se passe comme lui, il a vu, et Dieu, il n'est jamais pris à dépourvu, hein. Jamais. Parce qu'il voit l'aboutissement, notre propre vie. À Jérémie, il a dit, lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, je t'ai appelé. Et David, il dit, apprends-moi à bien compter mes jours, parce que en certain moment, le fil va être coupé. Paf. Parce que c'est Dieu qui dirige toutes choses. Mais Dieu, il peut intervenir. Hein. Le roi Ézéchias, il lui a dit, Esaïe, il lui a dit, prépare-toi, tu vas mourir. C'est vraiment dur que quelqu'un te dise ça, hein. Un prophète. Hein. Jean-Pierre, prépare-toi, tu vas mourir. Qu'est-ce que c'est qu'il a fait? Il a prié. Et Dieu lui a donné encore 15 ans. Mais il aurait mieux fait de mourir. Parce que des fois, Dieu, il arrête notre vie pour nous empêcher de faire les choses. Parce que Ézéchias, une fois qu'il a été guéri, il n'avait pas d'enfant. Hein. Voilà pourquoi il disait, ne me fais pas mourir maintenant. Mais avec ses 15 ans qu'il lui a donné, il a eu un enfant. Et cet enfant, il a été la honte de tous les rois. S'il serait mort à cette époque-là, tous les peuples juifs n'auraient pas souffert ce qu'il a souffert. Voilà pourquoi quelque chose de très important. Dieu, il règne. Dieu, il fait tout ce qu'il veut. Anne, vous en souvenez, Anne, la mère de Samuel, il a dit, tu es celui qui élève, tu es celui qui abaisse, tu es celui qui fait mourir, tu es celui qui fait vivre. Tout pouvoir, il est entre les mains de Dieu. Ne nous occupons pas, n'ayons pas peur. Pourquoi? Parce que notre Dieu règne. C'est cantique, notre Dieu règne encore, encore. Même si le monde autour de nous, on voit qu'ils ne veulent pas de Dieu. Mais Dieu règne. Et cet homme-là, il avait cette conviction-là. Et d'ailleurs, dans le chapitre 2, plus loin, lorsque Nebuchadnezzar, il a rêvé de cette statue qui représentait dans la suite des temps les quatre royaumes qu'il devait arriver, l'empire babylonien, l'empire grec, l'empire médo-perse, l'empire romain, l'empire grec, l'empire romain, hein. Ces quatre empires, ils n'étaient pas là, il y avait juste l'empire babylonien qui était là. Mais ces statues-là, ils représentaient les autres empires qui seraient venus jusqu'à l'empire romain. Et qu'est-ce qu'il est arrivé à l'empire romain? Parce que c'est le dernier empire, hein. Et il dit, dans la prophétie, il dit, une pierre venue d'ailleurs, il est tombé sur cet empire-là, et cet empire a disparu. Et de cette pierre, il va naître un royaume qui sera là éternellement. Les choses, ils sont établies. Et Dieu nous le dit dans Isaïe, si je te dis quelque chose, attends cette chose-là. Peut-être qu'ils tardent, mais ils vont arriver, parce que je l'ai décidé. C'est moi le Dieu Tout-Puissant. Voilà ce qu'il faut avoir au plus profond de nous-mêmes. Que Dieu règne. Et si on sait que Dieu règne, comme l'a vu la première clé, on sait que si nous faisons des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu, Dieu, il va nous juger. Dieu, il va nous juger. Voilà pourquoi c'est quelque chose de très important. La cinquième clé, nous la trouvons dans le chapitre 6. Hein? Le verset 4 et 5. Ici, c'est encore la jalousie de ceux qui, le soi-disant sage qui était dans l'Empire. Hein? Voilà ce qu'il dit. Parce qu'ils avaient dit au roi, écoute, cette statue, il faut qu'il orque cette statue et pas prier d'autres dieux. Et alors, ils ont cherché d'abord à l'accuser dans ce qu'il faisait, hein, dans comment il gouvernait les pays, parce que c'est lui qui avait tout en main. Et voilà ce qu'ils ont dit là. Encore une fois, c'est les adversaires, hein, de David, de Daniel. Regardez ce qu'ils disent, les adversaires. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Vous imaginez, il gouvernait ce peuple et ses ennemis, un peu comme aujourd'hui il y a Macron, n'est-ce pas, mettez la France insoumise, il regarde Macron et dit, mais, il n'y a rien à accuser, il fait tout bien. C'est ça ce que... Il dit, on ne trouve rien. Il a fait son travail. J'ai utilisé Macron, mais vous avez compris qu'il s'agit de Daniel. Hein? Il a dit, on ne trouve rien. Tout ce qu'il fait est bien fait. Il a dit, peut-être qu'on va en trouver dans sa loi, dans ce qu'il croit. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le roi, il a dit, il ne faut pas adorer d'autres dieux. Et ça, il l'a su, Daniel. Voilà pourquoi il dit, Daniel, comme on dit, il était irréprochable dans son gouvernement, dans la direction du pays. Et c'est quelque chose de très encourageant. Ses ennemis, ils disent de lui qu'il est fidèle en toutes choses. Voilà quelque chose qu'on aimerait bien que... Mais Daniel, parce qu'il savait que Dieu, il règne, qu'est-ce qu'il a fait? On l'a lu tout à l'heure, au chapitre 6. Hein? Il continuait à prier, hein? Comme il faisait d'habitude. Et en plus, il a ouvert ses fenêtres. Donc, vous savez bien que lorsqu'une fenêtre est ouverte, les gens, ils font quoi? Ben, ils voient ce que vous faites. Et alors, il les voyait prosternés, en train d'adorer, et de prier. Alors, on dit, ah, tu pries vers Jérusalem en plus. Hein? Donc, paf. Mais Daniel, pourquoi il a fait ça? Parce qu'il était résolu à faire les choses selon la volonté de Dieu. Il n'y a rien qui peut empêcher, hein? Rien ou personne qui peut empêcher un homme de Dieu de faire ce que Dieu nous... Pourquoi? Bien sûr, tout seul, nous ne pouvons pas. Mais qui c'est qui nous aide? Mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même, Paul lui nous l'a dit, c'est lui qui vous donne les vouloir et les faire. Il nous donne les vouloir, mais c'est aussi à la personne de dire « je veux faire ». Parce que Dieu, il le donne à tous les vouloir et les faire, mais ils ne répondent pas. Mais Daniel ici, hein, c'est, il a mis en pratique ces choses-là, même au risque de sa mort. C'est un peu comme ils font nos frères et sœurs dans les pays où la parole est proscrite, où le gouvernement il interdit les rassemblements. Les études bibliques, ils les font en cachette, les cultes, ils les font en cachette. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous servir d'exemple. Nous sommes dans un pays libre. Nous pouvons pratiquer la religion, croire en qui nous voulons. On a des cultes, on a des enseignements, on a des réunions de prières. Et qu'est-ce que c'est que nous faisons? Nous avons la liberté, nous n'y allons pas. Imaginez-vous ceux qui vivent dans des pays où tout est interdit. S'ils vont à une réunion ou un culte, si la police les attrape, ils vont être tués. C'est au risque de leur vie. Voilà pourquoi c'est très important. Hein? Une sixième clé, et c'est la dernière. Hein? Sinon, je vais vous garder encore. Hein? Mais vous me connaissez, je suis un peu bavard lorsqu'on parle de Dieu. Alors, une sixième clé. Chapitre 9 de Daniel, verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par le livre qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Toutes ces choses-là, Dieu il les avait déjà dit par le prophète Jérémie. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant les sacs et les cendres. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Ici, on voit que Daniel, cet homme, encore une fois, toutes ces clés, elles sont valables pour les papas. Hein? C'était un homme qui, il étudiait l'Écriture. Il méditait les Écritures. Et en plus, il priait. Une fois qu'il a lu les Écritures, il priait et il jeûnait. Et en plus, encore, il s'est mêlé aux autres. Pourtant, il le dit, c'est pas moi qui a péché, c'est pas spécialement Daniel qui avait péché parce qu'il a péché car il avait été, mais c'est le peuple d'Israël. Mais il demande pardon à Dieu. Il se met dedans et il dit, nous avons péché. Et pourtant, lui, il n'avait pas péché, hein, parce qu'il a toujours été un homme intègre. Daniel, comme je dis, il n'est pas seulement un homme de prière, un homme qui gêne, mais aussi un homme qui étudie la parole de Dieu. Et lorsque j'ai préparé l'étude, ça m'est revenu ce qui nous est dit dans le premier chapitre de Josué, verset 8. Vous en souvenez, il dit, ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit pour observer et pratiquer tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras. Il méditait la parole et il l'étudiait. Et en regardant les Écritures, il a vu quoi? Il a vu cette prophétie de Jérémie. Jérémie l'avait donnée. Et vous savez qu'un prophète, il parle de la part de Dieu. Et l'Éternel, il avait dit à Jérémie, « Bon, voilà, ton peuple, il sera ramené en captivité. Il y restera 70 ans. » Et Daniel, en lisant cela, il a compris qu'il était aussi à la fin de ses 70 ans. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié le Seigneur, il a imploré le Seigneur. Et il disait, il faut lire la suite, hein, on ne va pas tout lire, sinon on ne s'en sort pas. Hein. Et il disait au Seigneur, les années, 70 ans sont presque terminées, Seigneur. Qu'est-ce qu'il va arriver à ton peuple? Et c'est là que Dieu, encore une fois, il écoute les prières de ses enfants. Il a envoyé son ange et il lui a dit, voilà ce qui va arriver à ton peuple. Il lui a dit ce qu'il allait arriver au peuple d'Israël. Et c'est là qu'il a fait quoi, une fois qu'il a reçu cette révélation? Il a remercié le Seigneur. Ah oui, tu es le Dieu qui règne. Tu es le Dieu qui dispose de toutes choses. Voilà pourquoi je vais te rester fidèle. Voilà les six clés. J'ai donné ce titre à mon message, les clés du succès. Si on désire avoir du succès, il faut mettre et avoir à notre disposition ces clés-là. Et vous savez, c'est les témoignages dans le Nouveau Testament. C'est exactement la même chose. Donc, il nous est dit, dans 1 Pierre 1, il dit, « Soyez saints dans tout votre comportement. » C'est Pierre qui le dit. Et la deuxième clé, c'est, il était un homme saint. Il nous est dit aussi dans Thessaloniciens 5, « Priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. » Voilà, c'est encore une clé, la prière. Il nous est dit encore, « Il y a un seul Dieu et Père de tous qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. » Une autre clé, c'est Dieu règne. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Et ensuite, Éphésiens 4, revêtez-vous de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte qui produit la vérité. Ne nous conformons pas à ces temps, car ces temps, ce monde est mauvais. Et nous n'appartenons pas à ce monde. Je vous le répète déjà assez souvent. Il y avait quelqu'un ici, il m'a dit, mais comment tu n'es pas du monde? Mais non, je n'appartiens pas au monde. Parce que Dieu, il m'a pris de ce monde et il m'a transporté dans ce royaume de lumière. Il a donné un sens à ma vie. C'est ce qu'il a fait avec vous. Et dans 2 Timothée 3, 16, il dit, « Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. » C'est à travers la parole que nous pouvons mener une vie sainte. Il faut l'étudier, il faut la méditer. Et si on fait toutes ces choses-là, nous pourrons l'enseigner. Car si on n'étudie pas, on ne médite pas, comment voulez-vous apprendre aux autres à le faire? On ne peut pas. Daniel, vous savez, Daniel était un grand homme, mais il était un homme. Derrière lui, il se trouve le Dieu souverain. Nous ne sommes rien. Mais nous avons avec nous, derrière nous, avant nous, nous avons un Dieu tout-puissant. Et il nous a dit, vous ferez des grandes choses. Vous ferez des choses plus grandes que ce que j'ai fait, il dit Jésus à ses disciples. Et c'est ça que nous devons avoir au plus profond de nous-mêmes. Et ce grand Dieu, il est aussi derrière chacun dans ce monde. Pourquoi? Car le souhait de Dieu, c'est que tous, ils soient sauvés. Mais comment ils vont venir à la connaissance de ce Dieu qui aime, de ce Dieu qui dispense, de ce Dieu qui tend les mains? Mais c'est nous, c'est à chacun de nous. Et le Seigneur Paul nous l'a dit, on en a parlé vendredi pour la réunion de prière, qu'il dit, il y a des gens qui disent, ah mais je suis timide, je ne sais pas quoi dire. Mais Paul nous dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Ne vous occupez pas de ce que vous allez dire. Lorsqu'on témoigne, lorsqu'on évangélise, qu'est-ce que c'est qu'on doit dire? On ne doit pas sortir notre théologie, notre grande connaissance. On doit juste dire, voilà ce que j'étais, voilà ce que je suis, et voilà ce que le Seigneur, il a fait et il fera de moi. Et ces choses-là, il est prêt à les faire pour toi. C'est ce que nous devons dire. Et c'est pour cela que nous devons être des enfants saints, comme on a vu à travers les clés, des enfants des prières, des enfants des foi, des enfants qui savent que Dieu règne, hein? Des enfants intègres qui font passer la volonté de Dieu avant la volonté de l'homme, hein? Et surtout, soyons ou laissons-nous remplir par l'Esprit. Encore une fois, c'est la clé du succès, hein, pour avoir une vie épanouie. Et encore une fois, c'est bon pour les pères aussi, hein. C'est la fête des pères. Pour terminer, encore 5 minutes. Hein. Oui, je sais que je suis long. Hein. J'ai vu quelque chose, je l'ai recopié. Je vais vous dire à propos des pères. Ce que les pères, hein, ils doivent se dire. Voilà ce que... Il dit, je vais être, ça c'est le père qui dit ça, hein. Je vais être le genre de père qui sait la bonne chose à dire au bon moment afin de pouvoir consoler les cœurs brisés et sécher les larmes des membres de ma famille. Je vais être le genre de père qui est à la fois tendre et fort. Je vais apprendre à mon fils, à ma fille, à mes enfants, ce que signifie être un homme, et à ma fille, ce que ça signifie d'être une femme. Et je veux que tous les deux, ils sachent comment exprimer ce qu'ils ressentent vraiment à l'intérieur. Je veux être le genre de père qui est juste, quand il s'agit de prendre des décisions, même si elles ne sont pas faciles ou populaires avec ceux qui m'entourent. On entend souvent, c'est injuste, c'est injuste. Et ça, on le dit même à Dieu. Hein. Je veux être le genre de père qui conduit ses enfants dans les voies les plus justes et les plus spirituelles, tout en aimant Christ et son Église. Je veux être le genre de père qui prend le temps de s'amuser et parler avec sa famille, qui peut laisser les choses du monde de côté pendant un temps afin que sa famille sache qu'ils sont les plus importants. Je veux être le genre de père qui créera un désir dans ses enfants de m'impliquer un jour dans la vie de leurs enfants. Grand-père, n'est-ce pas? Je vais être le genre de père qui prie avec sa famille pour qu'il sache un jour exprimer à Dieu ce qu'il ressent, pour qu'il puisse voir aussi que parfois je suis faible et par tout ce que je veux être, mais que je connais un père qui est parfait. Et il termine, ne veux-tu pas être ce genre de père un jour? Pour cela, il faut être présent à la maison et il faut aimer le Seigneur Jésus-Christ qui nous donnera la force. Amen.